Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes le vendredi 29 novembre et vous êtes en direct avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus du pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. D'abord, on va vous rappeler, chers auditeurs, chères auditrices, que cette émission est mise en ligne pour que les victimes ou les témoins de l'abus de l'autorité puissent justement dénoncer publiquement leur agresseur. Cette émission est la seule et unique fenêtre médiatique au Québec qui offre réellement l'opportunité aux victimes, l'occasion d'exprimer leur révolte, leur déception, leur colère vis-à-vis aux injustices exercées ici au Québec. Donc c'est une occasion de venir partager et vider le trop-plein pour que d'autres victimes savent qu'ils ne sont pas tout seuls sur ce bateau qui chavire d'une place à l'autre, fuyant justement les intempéries à la recherche d'un lieu sûr, d'un endroit paisible et d'une paix durable. Alors, témoigner justement sur ces ondes veut dire aussi dénoncer, alerter, réclamer justice. Témoigner dans cette émission veut dire aussi participer à la reconstruction de cette société malmenée, cette société qui s'échappe à la rigueur et la responsabilité de ceux qui ont choisi d'être responsables. Vous le savez ou non, il faut le dire que nous vivons dans une société qui avance sur des voies incertaines, une société qui rame dans l'incertitude, une société qui a besoin en urgence de se questionner sur le choix de chaque responsable mis en place. Avez-vous vu un ministre, par exemple, d'un gouvernement qui a accédé à ce poste clé de l'État sans aucune vérification préalable à cet effet, justement? Imaginez-vous qu'une personne qui affiche sur toute la ligne de sa vie un comportement douteux et responsable et qui arrive facilement à occuper un poste de ministre dans un gouvernement. Donc on parle de quelqu'un qu'on a suspendu son permis de conduire, donc il lui est interdit de faire rouler un véhicule sur une voie de circulation. Comment voulez-vous qu'on lui permette de faire avancer les roues d'une société sur des rails déjà abîmés? Une personne qui est poursuivie de ne pas avoir payé des contraventions, une personne qui n'a pas payé son loyer de plusieurs mois, même les assistants sociaux, des gens très fragilisés par le coût de la vie, arrivent d'être responsables et de respecter le pacte de leur bail. Une personne qui quitte son logement en laissant dans un état dégueulasse, cette même personne dans le royaume de l'incertitude devient, bien sûr, ministre. Et ministre de quoi? De l'environnement. Et pourquoi pas, dans une société comme la nôtre, et tout est possible. Alors, une fois placé à la tête de ce ministère, on lui reproche un comportement inapproprié à la fonction, d'avoir justement fait des interventions illégaux au niveau politique. Et ça, dès son départ avec cette nouvelle fonction de ministre. Heureusement, je dis bien heureusement, qu'il n'a pas demeuré longtemps à ce poste de ministre. Comment on a pu confier un tel poste à une telle personne? Comment cette personne a pu passer à travers le filet? Qui est responsable donc? C'est la question légitime que tout le monde puisse poser. Et quand vous entendez notre première ministre, Mme Marois, défendre ce personnage-là, vous auriez juste envie de boucher vos oreilles. Écoutez justement la réponse de notre première ministre. « Je savais qu'il n'avait pas payé ses contraventions, mais il ne m'a jamais parlé de son loyer impayé. » Et elle ne le dit avec un petit rire jaune, comme un enfant qui cache la vérité. Alors, cet nouvel épisode nous rappelle celle de notre ancien maire, Gérard Tremblay, qui se défendait justement de ne pas avoir été avisé de quoi que ce soit dans son administration. Devant presque la même position, Mme Marois ne dit autre chose. Elle ne dit qu'elle était avisée, mais seulement d'une partie de l'histoire. Bref, elle ne disait qu'elle ne savait pas tout. Et le plus drôle et le plus théâtral dans cette histoire, c'est que le ministre en question, M. Daniel Breton, dans un point de presse hier, il vient de dire à la population, écoutez-moi, j'ai vécu et je connais la précarité, je sais que c'est qu'est-ce que c'est de perdre son emploi, de perdre son appart, de vivre en se demandant si on va avoir un repas sur la table le soir. Bref, c'est tout un numéro humoristique. Le ministre continue dans ce numéro pour nous dire, écoutez, même hier soir, j'étais présent au chaud des refuges. J'étais là pour solidarité et par compassion. Et imaginez-vous cette pièce théâtrale, et malgré qu'elle a duré seulement quelques secondes, elle avait obtenu son résultat et son but recherché. Monsieur Daniel Breton a pu, si vous voulez, en quelques secondes de théâtre, attordre l'esprit de beaucoup de gens qui disaient « Oh, pauvre lui, il ne mérite pas tout ça quand même !» Je ne sais pas qui lui a conseillé de jouer ce tour, mais de toute façon, ça a très bien fonctionné. Parce que ces gens-là savent comment justement berner la population québécoise. Une sortie de quelques secondes, je dis bien de quelques secondes, et le tour est joué. L'hypocrisie, le discours décousu de la politique, il est là, justement, là, devant vous. Expulsé de son logement, suspension de son permis de conduire, refusé de payer ses contraventions, influence illégale au niveau politique, j'en passe. Il ne s'agit pas ici d'un incident ou d'un accident de parcours, mais plutôt d'un comportement et d'une ligne de vie difficile à redresser. Que le type, je comprends que le type a des problèmes graves, ça on peut le comprendre, mais une telle personne accéder au poste de ministre, ça va être très dur à comprendre. C'est tout à fait l'incompréhensible. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes au Québec et tout est possible. Tout est permis. J'aurais aimé au moins que notre première ministre est venue nous dire « C'est effectivement ma responsabilité et je suis désolé de ne pas avoir vérifié comme il faut. » Alors voilà un tout petit exemple de ceux qui dirigent notre société, ceux à qui nous avons confié notre avenir et celle de nos enfants. Maintenant, j'aimerais bien plutôt vous parler d'un article qui a été... qui a attiré mon attention, un article... publié justement dans le journal de la presse le 26 de ce mois, intitulé « Le bonheur québécois ». Donc l'auteur est un économiste, chercheur à l'Institut des politiques sociales et de la santé de l'Université de McGill. Alors, le monsieur en question, il a fait des recherches selon une étude qui va être publiée, d'ailleurs dans le numéro de mars de l'année prochaine, dans le périodique « Analyse de politique ». Et le résumé de cette découverte ultra surprenante, si vous voulez, c'est que de la province la plus malheureuse, le Québec est passé en 25 ans à l'un des endroits les plus heureux sur la Terre. Et je dis bien hein, la conclusion que le Québec est passé à l'endroit le plus heureux sur Terre. Alors je ne sais pas comment les lecteurs ont pu apercevoir cette nouvelle. Mais de mon côté, je ne vous cache pas la vérité, je me suis demandé si l'auteur de cette recherche n'est-il pas un témoin de Jéhovah ou un solitaire dépendant du pote et du hache pour nous arriver avec cette conclusion. Et je me suis dit aussi, voilà le danger de vivre et d'effectuer justement des recherches dans des bureaux clos loin de la réalité. Quand j'avais lu l'article, je ne croyais pas mes yeux bien sûr, qu'une personne peut avoir l'audace de venir avec cette conclusion pour une société comme le Québec. Une société où la plupart des citoyens sont finalement malheureux, la plupart des citoyens sont dans un combat qui mène chaque jour pour arriver à vivre tout simplement. Si la vie est rose pour la minorité, elle est sombre pour la plupart des citoyens. Alors, je ne vois vraiment pas d'où ce type-là, justement, était allé chercher ce bonheur retrouvé soudainement dans les sondages truqués, une étude qui sera vendue rapidement sur le marché et le gouvernement va la mettre plutôt en avant pour mieux endormir ceux qui refusent d'en fermer les yeux. Alors, la commission Charbonneau est une goutte d'eau dans un océan. Elle est là pour nous dire que l'argent des contribuables coule à fond pour enrichir justement et renforcer des criminels en cravate, des criminels qui sont protégés par les fonctionnaires de l'État même, pendant que vous et moi, chers auditrices, chers auditeurs, nous sommes taxés chaque fois qu'on tire la chasse de nos toilettes. Alors vous devrez comprendre que dans cette société où le citoyen devra subir les conséquences d'un système mis et tenu hors du tout contrôle, il devient un peu difficile de trouver ce bonheur dont nous parle l'auteur de cette fameuse étude. Et si seulement ce type-là peut venir nous vendre, hein, il peut venir aussi nous rendre aussi visite dans nos bureaux, dommage, et jeter un coup d'œil sur le nombre des victimes de l'abus de l'autorité. Voir comment les injustices frappent systématiquement les plus démunis. le nombre de personnes qui n'ont pas eu justice, le nombre de personnes qui mènent un chagrin sans borne, chaque jour, chaque instant, peut-être il va changer d'avis. Et ce n'est pas vrai que le Québec est l'endroit le plus heureux sur la Terre. Peut-être ceux qui fréquentent le club privé 357, c'est oui, mais sûrement pas tout le reste de la population. Dans une société où des ministres et des hauts fonctionnaires mangent dans le même plat des entrepreneurs en construction associés au cartel des égouts, je ne pense pas qu'on trouvera une odeur de bonheur, nous les citoyens qui sont taxés même pendant notre sommeil. Alors il est vrai qu'on rêve tous du bonheur, mais la vérité nous rattrape aussi vite qu'on essaye de s'évader un peu plus loin de notre quotidien. J'ai ce matin invité mon invité qui a participé dans plusieurs marches. La personne en question n'allait pas arriver encore au studio, mais je vais essayer peut-être de la rappeler. On va la voir sur la ligne. Donc c'est une personne qui a marché plusieurs ce mois-là pour la marcher. Elle a participé dans des manifestations justement pour tenter de convaincre le gouvernement marois d'accroître les investissements en logements sociaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement des familles ici au Québec qui versent jusqu'à 50% de leur salaire, si ce n'est pas plus, pour payer leur loyer. Imaginez-vous ces gens-là, s'ils perdent leur travail, dans quel pétrin de merde se trouvent-ils ? S'ils ne le sont pas déjà. Alors, il est où, je me demande, ce bonheur dont notre chercheur nous fait l'éloge? Nous sommes vraisemblablement très loin de cet endroit désigné comme l'endroit le plus heureux sur la Terre. Une étudiante de l'Université de l'UQAM qui me disait il y a quelque temps qu'elle se prostituait, la pauvre, justement, par moment pour arriver à joindre les deux bouts. D'où, je me demande, d'où ce putain de chercheur a-t-il allé chercher ce bonheur pour le Québec? Des familles qui mangent un seul repas par jour, il est où le bonheur dans ce plat unique de la journée? Écoutez, 8 mois de sursis pour un enquêteur du SPVM, j'ai bien dit 8 mois de sursis, pas de prison. 8 mois de niaiserie pour un enquêteur qui a fourni quoi? Qui a fourni de l'information au crime organisé. Un enquêteur qui a jeté un pont entre le service de la police de Montréal et le crime organisé. Autrement dit, on sait plus qui sont réellement les auteurs du crime organisé. Est-ce que c'est le SPVM qui fait partie aussi ou non? Dans ce dilemme, aussi obscur qu'il peut l'être, d'où voulez-vous, chère auditrice, cher auditeur, d'où voulez-vous que le bonheur surgira? L'enquêteur en question, ou plutôt l'enquêteur en question, après ce repos de 8 mois, il va reprendre ses fonctions au sein du SPVM, comme si rien n'était arrivé. Le juge dans ce dossier, je parle de l'honorable Jean-Pierre Dumay, souligne dans son jugement le parcours irréprochable de l'accusé. Essayez de comprendre quelque chose. Entre fournir de l'information au crime organisé et un parcours irréprochable, voilà ce qu'on appelle la justice du bonheur, si vous voulez. Dans chaque coin de rue aussi, dans cette société désignée dans cette recherche comme l'endroit le plus heureux sur Terre, l'État nous a mis un agent portant le matricule 728. Le matricule 728 est équipé, formé, dressé pour atteindre ses cibles. Il est confortable même dans ce qu'il fait parce qu'il est rassuré d'avance, sauf s'il est, bien sûr, attrapé les culottes baissées. Tout ça sur l'endroit le plus heureux de la Terre. Écoutez, je dirais même, mon fils qui a 15 ans, il est né bien sûr au Québec, il n'a jamais vu d'autre lieu que le Québec, il vient me voir avec une grande tristesse dans sa voix pour me demander « Papa, qu'est-ce que je réponds aux gens qui me demandent d'où je viens ? Combien sont-ils ces gens-là issus de l'immigration qu'ils ont le même âge que mon fils et qui va apaiser leur inquiétude ?» et qui va remplir ce creux profond dans leur cœur. Alors il est où le bonheur pour cette génération future? On parle d'une population piégée dans un système trop injuste, un système qui considère le plus fort et ignore le plus faible. Un système à deux vitesses. Souvent le citoyen ordinaire laisse sa peau. Nous sommes un peu loin, même si on le souhaite, de l'endroit le plus heureux sur la Terre. Chère auditrice, chers auditeurs, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait soi-disant la surveillance civile de nos institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Alors, comme je l'ai dit au studio, je devrais normalement avoir deux personnes, mais j'ai juste une seule personne qui est présente. L'autre, je vais essayer de la rejoindre au téléphone. Et avant d'aller à notre thème musical, je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à cette émission si vous êtes témoin ou victime de l'abus de l'autorité, ou même si vous avez des nouvelles idées à nous suggérer, vous êtes toujours la bienvenue. Vous pouvez nous rejoindre au 514-273-4302. Je répète, donc vous pouvez nous rejoindre au 514-273-4302 ou bien nous écrire à info@commercialmach-quebec.com. Je répète, à info@commercialmach-quebec.com. La question d'aujourd'hui, donc, il s'agira justement de la participation de cette dame-là aux manifestations pour les logements sociaux. Et il y aura aussi la deuxième personne qui va intervenir. C'est autour d'une question qu'on se demande. Le barreau du Québec est-il aussi au service des victimes ou non? Voilà, chers auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice. On revient avec vous dans quelques instants.
Sur les problèmes de société, coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un fait. obscène. Un vase obscène est un œil humain.
Voilà, chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée justement exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et comme c'est prévu, donc je vais essayer de rentrer en contact avec Madame Perlette, une personne qui a participé à la manifestation pour justement les logements sociaux. Alors, on va rentrer en contact. Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Madame Daher, comment ça va?
Oui, ça va, bonjour à tout le monde.
Merci. J'aimerais bien, je sais que vous avez participé à plusieurs manifestations et surtout les dernières manifestations
le
28 novembre justement, avec un groupe des personnes qui sont venues pour justement pour les logements sociaux.
De toutes les associations. Oui.
Toutes les associations. C'était à quel lieu?
Ça a eu lieu, c'était le 28 novembre, et on a fait une grande marche, surtout on s'est présenté à la Ligue des propriétaires,
oui, oui.
Pour dénoncer l'abus de pouvoir, les abus de hausse de loyer.
Oui. À la hausse du loyer, c'est ça?
La hausse des loyers, oui, oui. Abusifs des propriétaires qui sont aidés par la régie du logement.
Okay.
La régie du logement ne se penche pas sur les ménages qui sont tellement appauvris,
oui.
Qui ont des enfants. D'ailleurs, plusieurs fois à la télévision, on montre les taux de la vie sociale qui n'est plus une vie sociale des ménages.
C'est vrai qu'il y a des gens...
On refuse même aux femmes monoparentales des enfants. Les propriétaires ne veulent plus avoir des enfants dans le logement. Ils refusent en donnant des excuses inacceptables.
C'est-à-dire les propriétaires, ils refusent à des familles qui sont nombreuses avec
exactement,
des enfants.
Exactement, les enfants, si elle a plus d'un enfant, là, ouais. Ça devient une catastrophe pour les familles.
Alors, c'est vrai,
il y a beaucoup de ménages. D'ailleurs, ça fait des années et des années que nous manifestons, ouais. Pour demander qu'il n'y ait plus de hausse abusive du logement.
Ouais.
Ça dépasse nos attentes, ça dépasse notre vie, on vit misérablement.
Oui.
Et je voulais simplement, avant d'oublier, une petite collaborer avec vous pour la question du Québec, que nous sommes vraiment dans le bonheur et on est heureux. Oui. Et ça, c'est une fausse, c'est simplement pour leurrer la population, oui. à l'extérieur du Québec. Là.
Oui.
Et comment se fait-il que dans tous les journaux, on parle de Moisson, Montréal, de tous les organismes qui sont là pour dépanner les ménages concernant la l'aide alimentaire.
Vous parlez de la pauvreté.
Oui, ouais. L'aide alimentaire est en train d'augmenter de 100 personnes en plus.
Ouais,
chaque année, et personne n'est là pour entendre la voix malheureuse des gens qui crient famine. Oui, il y a pauvreté au Québec. C'est pas vrai que tous les gens vivent heureux.
C'est
pas vrai que nous sommes dans un havre de paix.
Ouais.
C'est pas vrai.
Et
nous vivons dans une société malheureuse où la population est en train de se démener seul.
Oui.
Il n'y a personne, aucun ministère, aucun député qui répond à nos appels, à nos attentes.
Mais vous avez bien compris comme quoi la pauvreté ne peut pas être synonyme de bonheur, c'est sûr et certain.
Oui.
Mais je reviens juste avec votre intervention justement pour les logements sociaux. Les gens, ils demandent que le gouvernement construise des logements sociaux justement pour répondre aux besoins des familles avec leurs cris à l'arme.
Mais c'est normal.
Oui.
C'est normal. Les familles, il y a des familles qui jusqu'à aujourd'hui vivent encore dans des écoles, dans des abris.
Oui.
Ils vivent entassés un sur l'autre.
Après,
ils disent pourquoi est-ce qu'il y a des suicides, pourquoi est-ce qu'il y a des crimes.
Oui.
Mais tout ça provient de la pauvreté.
Oui.
Et moi, je dirais une chose, dans le monde entier, tous ces grands responsables, ces grands personnages-là qui sont responsables de la planète,
oui.
Ils peuvent très bien arrêter la pauvreté. Ils peuvent faire un havre de paix dans ce monde.
Non, surtout,
ils sont trop occupés par d'autres choses.
Mais surtout,
la plupart des gens, la plupart de ces responsables-là, oui. Ils ont l'obligation de donner un peu plus de bonheur à tous ces gens, un peu plus de respect.
Oui.
Il faut éliminer le mot pauvre. Oui. Ce mot pauvre-là ne doit plus... ne doit plus jamais exister dans le siècle dans lequel nous vivons. C'est une honte à l'histoire. Quand nous ne serons plus là, qu'est-ce que l'histoire va donner comme exemple de tout ce que nous avons fait, de tout ce que les responsables de cette planète ont fait?
Vous généralisez un petit peu, mais nous, on parle justement pour le Québec, hein, le Canada.
Exactement. Le Québec, c'est le pays le plus riche au monde.
Normalement,
parce
nous ne devrons pas vivre cette
précarité. S'il y avait vraiment un déficit, il n'y aurait pas eu tellement de fraude, monsieur. Comment se fait-il qu'il y a un déficit de milliards et des milliards, et chaque fois ces milliards augmentent? C'est parce que tout cet argent-là était dans leur poche. Ils sont envoyés à l'extérieur du pays. Et tous les citoyens le savent. Nous savions très bien que tout cet argent-là, on nous l'a volé. On ne pouvait pas s'attendre à la question de la commission Charbonneau que Charest, et je comprends pourquoi M. Charest ne voulait pas du tout qu'on puisse accéder à l'opinion, qu'on puisse savoir tout publiquement, parce qu'il savait que c'était le plus grand scandale qui est en train de se taraner, et je crois que c'est une honte tout ce qui se passe. On est perturbé.
Partout, on parle
de la commission Charbonneau, partout, parce qu'on ne pouvait pas s'attendre que c'était tellement criminel tout ce qui se passe. En plus de ça, monsieur, il y a une chose importante que vous devez savoir, c'est que tous ces gens-là qui sont venus et qui sont des criminels, parce qu'ils nous ont empêchés, ils nous ont pris de notre bouche, de la bouche de nos enfants, le pain que nous avions droit à donner.
Tout à fait,
eux, ils étaient en train de s'amuser, de dépenser l'argent et de disperser comme ils le voulaient. En plus, ces gens-là, ils sont là pour témoigner, mais ils sont immunisés. Ouais. Mais où va cet argent? Où est-ce qu'ils vont leur reprendre cet argent?
Est-ce que ces taxes
vont diminuer pour nous? Est-ce qu'ils vont nous compenser de tout ce que nous avons enduré et souffert de ce manque d'argent?
Madame Madar, vous êtes en train de dire aussi, d'une manière ou d'une autre, comme quoi la commission Charbonneau, c'est un théâtre?
Exactement, ce sont des marionnettes. Je m'excuse avec tout le respect que j'ai pour cette commission, parce que si vraiment ça aurait été plus sérieux et que vraiment ils ont à cœur le droit des citoyens, ils auraient dû premièrement les punir à tous ces gens-là parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ouais. On dit, ils ne savaient pas ce que... Mon Dieu, pardonnez-moi parce que je ne savais pas ce que je faisais. Mais eux, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils sont adultes. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils faisaient.
En plus
de ça, est-ce que la commission Charbonneau va nous rendre tout cet argent? Regardez la Banque Royale aujourd'hui, j'ai entendu. Ils ont fait 7 milliards de bénéfices. C'est pas 700, c'est pas 7 000. Nous, qu'est-ce que nous encaissons par mois? De la misère, juste des miettes, pendant qu'eux, ils nous taxent. Nos enfants crèvent de faim, nos enfants ne veulent plus aller à l'école. On nous dit, pourquoi les décrochages? Et quand on parle, ah madame, vous savez, si ça ne vous plaît pas, retournez dans votre pays. Mais quel est le pays qui est encore pays?
Alors vous êtes, madame, d'accord avec nous comme quoi le Québec il est loin d'être l'endroit le paradis de
non,
sur
non,
la Terre.
Non, j'ai assisté à beaucoup de
c'est
suicides,
c'est pas une vérité,
monsieur.
Tu veux dire. Hein? Pardon?
Beaucoup de suicides.
Des suicides qui
étaient involontaires. Ouais. Les gens ne veulent pas se suicider.
Parce qu'ils ne pouvaient pas
vivre, simplement. Tous les enfants, là, l'enfant de 7 ans qui vient d'être suicidé, on le passe à la télévision, une beauté d'enfant, un ange qui se suicide, qui met fin à sa vie.
Parce qu'il se retrouve
jamais
pas.
Jamais on a entendu ça, je ne l'ai jamais entendu depuis que je suis née jusqu'à ce jour, dans aucun pays, des jeunes qui se suicident à cet âge-là. J'étais révoltée, je suis hors de moi-même, je suis perturbée, et ça, ce n'est pas seulement moi.
Et vous n'êtes pas la seule,
tout
hein,
mon entourage.
Dans ce cas. Oui, pas ton entourage, mais avec vous participez dans la manifestation.
Oui, j'ai vécu la guerre du Liban durant 25 ans, et à peine que j'ai mis mes pieds ici, excusez-moi, avec respect au Québec, j'ai toujours vécu ici à Montréal.
Depuis combien d'années vous vivez ici à Montréal, madame?
Oui, ça fait 25 ans que je suis là. J'ai vécu aussi 25 ans de guerre au Liban, et à peine que je suis arrivée à Montréal, la première chose que j'ai faite, j'ai été membre dans plusieurs organismes de droit, comité logement, sociaux, après toute la misère que j'ai vue qui se passait dans les guerres. Et il faut assister à une guerre, il faut vivre une guerre pour savoir qu'est-ce que c'est la misère, la pauvreté, et qu'il n'y ait personne qui puisse venir vous aider. Oui. Les gens sont démunis de tout. Surtout ici maintenant à Montréal, on se demande est-ce que vraiment on a choisi la bonne place pour venir.
Oui, ça,
on ne trouve rien. Le peuple, il se défend lui-même. Oui. Le peuple est seul. Dites-moi quel est le ministère, quel est le député qui est là pour vous aider ou qui puisse accéder à une justice. Personne. Alors, Madame Marois est venue, elle est forte, elle est bien, elle essaye, mais elle ne pourra jamais continuer parce qu'il y a des loups-garous qui l'entoure, oui. Et ils vont pas la laisser continuer ce qu'elle voulait,
oui, mais madame, voulait madame,
faire. En plus, elle n'a jamais parlé de logement social. Oui. Personne, ils mettent tout ça à côté.
Mais elle avait mis ça.
Vous devez savoir, oui, une chose, excusez-moi, une seconde seulement. Oui. La pire des choses qui puissent arriver à un couple, c'est de ne pas avoir une maison ou enfin un logement
d'avoir la possibilité de payer un logement,
vivre en paix. Oui, le logement est la demeure, oui, le lieu le plus important pour une famille.
C'est la sécurité.
Les gens ne peuvent plus se marier, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus. C'est la pagaille, monsieur.
Cher,
excusez-moi,
oui.
C'est la pagaille. Une enfant de 13 ans, encore, je rentre un peu dans ça là. Oui. Une fille de 13 ans, elle peut avoir un homme de 70 ans, elle peut sortir avec lui, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Où est la loi? Il n'y a plus de loi. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? La fille est très importante et tout le monde en parle de ça.
Pauvreté, oui.
Une fille de 13 ans, elle, à l'âge de 15 ans, elle peut être enceinte. Donc elle cherche un enfant, oui, elle, avec son chum. Son chum, là, il a lui déjà un enfant d'une autre personne. Oui. À 16 ans, 18 ans, la fille, oui,
mais pourquoi
elle commence
à s'épanouir. C'est quoi le lien, madame Daher? C'est quoi le lien?
Elle quitte son chum, elle va avec un autre, chum.
Madame
elle apporte de lui un autre. Et ce qui se passe, c'est que les frères et sœurs se marient entre eux sans savoir qu'ils sont des frères et sœurs.
Ah, mais ça, c'est pas le sujet, madame.
C'est quelque
madame
chose.
Madame Daher,
madame Daher,
vous êtes un petit parti sur un autre terrain qui n'est pas.
Je m'excuse, mais parce que c'est la société, c'est le logement.
Oui. Alors, juste savoir, donc, pour finir avec vous, madame Daher, et pour.
Le logement, les gens sont en dehors, il n'y a pas de logement.
Oui, mais est-ce que, madame, pensez-vous qu'il y aura un espoir, qu'à un moment donné, le gouvernement québécois, il va penser vraiment qu'il devra retourner vers cette politique de construire des logements sociaux pour que venir en aide, justement, à des gens qui sont dans le besoin?
Et on peut pas, je n'ai pas le droit d'être pessimiste, monsieur, parce que ça va perturber tout le monde là. On devrait avoir un brin d'optimisme.
Voilà.
Maintenant, je crois qu'avec toutes les manifestations, avec tout ce qui se passe, de les gens qui hurlent, ils crient, ils crient famine.
Alors le mot
justice,
madame,
c'est qu'on nous donne,
madame,
qu'on nous rende la justice. L'argent que ces criminels ont pris, ils les ont dispersés de notre bouche là, pour la bouche de nos enfants. Je crois que nous devons être rembourser, et avoir une plus juste
merci
vie.
Beaucoup,
une vie vraiment qui part de bonheur, bien qu'on nous donne ce bonheur qui est comme comme un mirage.
Voilà, merci beaucoup, madame Daher, pour votre intervention.
Merci,
et c'est vraiment le mot de fin de votre intervention. C'était le bonheur, et nous sommes tous à la recherche, malheureusement,
exactement,
de ce bonheur.
Exactement, un bonheur
merci
comme un mirage.
Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, on va juste faire une petite pause musicale. On va revenir avec cette question-là. Est-ce que le barreau du Québec, il est pour les victimes ou contre les victimes? Est-ce qu'il fait son travail, oui ou non, avec notre seconde invité, M. Paquette?
Quand il a mal à l'âme, si le mêle est mort, si le met de mal et son mal, il coule, il cale, c'est fondamental de vider son mental. Sinon, on deviendra fou à force de coups et de balles. Quand il a mal à l'âme, si le mêle est mort, si le met de mal et son mal, il coule, il cale, c'est fondamental de vider son mental. Sinon, on deviendra fou à force de coups et de balles. Quand il a mal à l'âme, s'il accumule les tumultes et ne les brûle pas, deviendra fou comme un loup qui ne mange pas. Vers quel tu penches-toi? Lequel des deux choix? Facile de devenir fou quand on ne se vide pas. Car les choses qui blessent restent infestes comme la peste. Ta veste te blesse, t'empêche de faire ce qui apaise. Rêve tes blessures et tes brûleries, tes sangsues. Ta censure et tes sens et tes sangures sans déçu. Et ta mal à l'âme, ton âme ne s'exclame pas. Ce qui cause la flamme qui te brûle et te tuera. Tu rateras tout car t'auras trop de coups pour ne pas devenir fou. Parle à tout ce qui t'entourait avec tout ce que t'as. Et puis tout ce que t'es, et si jamais tu fais pas, tu souffriras de tes plaies jusqu'à la fin des temps. Même si tu meurs, tu trouveras pas la paix. Trouve-la maintenant, sinon tu ne la trouveras jamais. Sinon tu ne la trouveras jamais. Moi quand j'ai l'âme triste, je fais péter les feux d'artifice et je fais mon artiste. Pour ne pas que la tristesse assiste à ma mort, je veux quitter mon corps sans aucun remords et je plains le sort de tous ceux qui meurent sans avoir connu l'or. Quel art? Et sans lui, je m'égare. Je m'enduis de peine et de haine et de larmes. Et c'est le mal de vivre. Comment puis-je m'y faire et comment puis-je m'y plaire? Sans l'art, sans l'art. Yeah. Oh, oh, oh. Quand il a mal à l'âme, si le mêle est mort, si le mêle demeure.
Voilà, donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et après avoir discuté un petit peu avec l'invité, avec notre invité de logements sociaux et ce problème-là, on va passer à un autre volet qui est justement la question que certains posent. Est-ce que le barreau du Québec est-il au service des victimes ou non? Bonjour monsieur Sylvain Paquette, ce n'est pas la première fois que vous étiez invité dans notre studio. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui vraiment d'insister sur le fait comme quoi le barreau justement de Québec remplit pas sa tâche comme il faut? Mais peut-être avant de vous poser cette question-là, pour avoir un lien... Est-ce que vraiment, pensez-vous que vous êtes quelqu'un, le Québec est un lieu de bonheur?
Je peux pas dire nécessairement que le Québec est un lieu de bonheur parce que je connais pas les autres pays. Moi, je suis bien dans ce que je vis. Je vous dirais, bon, depuis mon combat judiciaire, je suis bien entre mes quatre murs chez nous, mon épouse puis mon fils.
C'est votre bonheur.
C'est mon bonheur total.
Mais à part votre fils et votre épouse, maudit,
c'est
le bonheur est un peu loin.
C'est comme une guerre
judiciaire.
Qui finit plus. Là.
Alors revenons juste pour rappeler les auditeurs de votre histoire. Vous étiez un entrepreneur et vous avez eu un contrat pour réparer, pour faire des travaux chez quelqu'un. Alors vous arrivez là-bas et le lieu, comme vous l'avez bien expliqué la dernière fois, n'était pas bien sécurisé. Et malheureusement, vous avez fait une chute de combien de mètres?
De 16 pieds de haut.
16 pieds de haut. Et le résultat, c'était que vraiment, vous avez eu...
J'ai eu 22 fractures. J'ai été dans le coma. 2 ans de physiothérapie, j'ai des séquelles pour le restant de mes jours. Puis tout ça a conduit à un combat judiciaire qui n'en finit plus. Là.
Alors votre combat judiciaire, justement, pour rappeler les auditeurs aussi une seconde fois, comme quoi vous êtes allé vraiment contre le...
Oui, je suis allé contre... dans le dossier...
Non, pour la réclamation, vous avez réclamé quand même des...
combien un montant de 280 000.
Vous avez réclamé 280 000 au propriétaire des lieux,
aux assurances.
Pour ne pas avoir justement protégé le lieu, c'est ça? Sécuriser le lieu, si vous voulez. Alors, vous êtes allé devant la cour et ça a donné quoi? Mais rapidement, là, parce que je sais que votre histoire, elle est longue.
Oui, une histoire est longue, c'est pas fini. Là, je m'en vais devant le tribunal des professions prochainement. Bon, le 13 au matin, mon avocate m'a dit que la partie adverse m'offrait 5 000 $, puis j'ai jamais eu aucune entente, comme quoi j'ai jamais signé aucun papier, comme quoi que j'ai accepté ce 5 000 $-là. Et le 24 février 2011, je suis allé en désaveu contre ses propos, que le juge Michel Desiel de la Cour supérieure à Laval a conclu que j'ai accepté cette offre-là de 5 000.
Alors, juste pour comprendre aussi que vous, de votre côté, vous n'avez jamais accepté cette offre-là de 5 000. Nous sommes loin de 200, combien sont ces comptes?
280 000, 500 000 et 98 000.
C'est ça, de 280 000 et quelques, quelques miettes. Et 5 000 $ d'offres, alors nous sommes vraiment... Là, je comprends.
Ça se comprend
facile que vous l'avez refusé.
Je crois qu'il n'y a pas personne sur la Terre
qui va accepter ça. Vous l'avez refusé, ça, je le comprends très bien. Mais malheureusement, votre avocate dit le contraire. Pourquoi elle vous a parlé et vous l'avez accepté. Mais vous, en aucun moment, vous avez dit devant la cour, ou vous avez dit à qui que ce soit... comme quoi, cette offre-là, vous l'avez acceptée.
Jamais.
Est-ce que c'est exact?
Exact.
Voilà.
Puis, à quelque part... Elle n'a aucun document signé. À un moment donné, à quelque part, il faut signer des ententes. Il faut signer vous achetez une maison, il faut vous signer des papiers. On ne vous donne pas la maison comme ça.
Non, c'est pas juste ça.
Moi, j'ai jamais rien signé. Donc, c'est juste des oui-dire d'un avocat. Mais on dirait que quand on se bat contre un avocat, notre version à nous, les citoyens, n'est pas crédible.
Avant d'arriver, je suis d'accord avec vous. Mais avant d'arriver à ce stade-là, c'est-à-dire que vous avez toujours dit que j'ai jamais accepté un offre de 5 000 $ et l'avocate dont la question, elle avait tort, elle n'avait pas raison. Et vous êtes maintenant, non pas contre le propriétaire dans un combat, mais vous êtes plutôt...
Maintenant contre mon avocat.
Contre l'avocate qui était dans le dossier.
L'avocate elle-même ne peut même pas dire avec des mots, ça doit être, peut-être, je ne peux pas vous dire, quelque chose du genre, quelque chose comme ça.
Dans toutes ses versions, elle n'a jamais dit à 100% qu'elle a entendu de votre bouche pourquoi vous avez accepté les 5 000 $.
Oui, à un moment donné, elle dit, je me souviens que M. Paquette me dit oui. Et un peu plus loin, je peux pas vous dire s'il a hoché la tête. Donc, oh tu peux God. Pas dire si j'ai dit oui, là.
Non, mais tout, dans tout ça, monsieur Paquette, dans tout ça, ce qu'on essaie de comprendre un petit peu, vous l'avez bien souligné comme quoi, quand un citoyen ordinaire, comme un citoyen comme vous, comme ça, va aller devant la cour, c'est toujours la parole d'un avocat qui, ouais. va passer devant le citoyen. C'est pourquoi, c'est assez spécifique.
Ah, parce que je sais pas.
C'est la stature, c'est ça?
Ouais, la stature, ouais. la notoriété, ouais. le statut social.
Un citoyen ne vaut rien, c'est
ne
ça?
Ne vaut rien. Ouais. Regardez, moi, bon, juste pour ouvrir une parenthèse, bon, j'ai porté trois plaintes contre trois avocats.
Oui.
OK, au barreau. Les trois plaintes ont été rejetées. Pourquoi?
Contre des avocats?
Oui, ont été rejetées.
Et vous avez été allé au barreau parce que c'est le barreau qu'il faut s'adresser, au barreau
ouais,
s'adresser?
Je suis adressé au syndic du barreau.
OK. Et le barreau, il a rejeté sur quel motif?
J'ai pas les motifs. Il ne donne pas les motifs exacts.
Non, mais s'il rejette une demande,
Oui, il me donne des lettres. Je vais vous l'expliquer tantôt, oui, les oui, lettres. Oui. Bon, la première avocate que j'ai vu la plainte, ça a été... Bon, après tout mon dossier, ouais. quand que j'ai passé à la cour le 12 et 13 mars, à un moment donné, bon, mon avocate se retirait du dossier. Après ça, j'ai fait affaire.
L'avocate, avec... là, qui a refusé le 5 000, là, qui a.
Oui, Maître Nancy Lecomte.
Oui, mais vous avez. Ils vous ont. La partie adverse, ils vous ont envoyé les 5 000 $ le chèque, et vous l'avez retourné.
J'ai jamais eu le chèque.
Ah, jamais eu le chèque. Mais votre avocate, vu. Elle a eu, c'est pas ça.
C'est elle qui l'a eu. Moi, je l'ai jamais vu.
Mais elle a retourné, finalement.
Oui. OK. Bon, après ça, après tous ces événements-là, j'ai appelé le barreau, puis j'ai dit, écoute, moi, je vais avoir
un. Il y a un problème.
Je vais avoir un autre avocat, puis tout ça, j'ai jamais accepté ça, ce montant-là. Je vais avoir un autre avocat.
Et que l'avocate, elle vous a laissé tombé là, c'est
oui,
ça?
Oui, oui. Ils m'ont référé à l'avocate Nicole Giguère. Oui. J'ai emmené mes papiers, j'ai expliqué toute la situation, que j'étais allé à la cour et tout ça. Puis là, bon, elle a dit, OK, M. Paquet, juste prendre votre dossier, ben ça peut vous coûter entre 500 et 1000. Ça veut pas dire que je vais le prendre. Parfait. J'emmène mes papiers, elle utilise le dossier, elle me rappelle, c'est bon, M. Paquet, je prends votre dossier, ça va vous coûter 600. Parfait.
C'est parfait.
Je vais à la caisse en bas, parce qu'il y avait une caisse populaire en bas. Je vais retirer 700 $ ouais. cash ouais. et je donne ce montant-là. Mon erreur, je n'ai pas demandé un reçu.
Oh my God. Ouais.
Mais sauf que j'ai la preuve comme quoi, que quand même, le montant a été retiré ouais. à la même bâtiment. Là. Fait que j'y donne les 700. Une couple de semaines après, elle me rappelle, ah là, mais c'est pas caisse, je ne suis pas sûr si je vais prendre votre dossier.
Pourquoi? À changer d'avis?
Parce que là, vous avez témoigné. Ben, je m'excuse, Maître Giguère, mais vous saviez j'ai témoigné?
Oui.
Que la partie adverse m'a offert 5 000, vous saviez tout ça? Oui, mais là, je ne sais pas, M. Paquette. Là, il me faudrait écouter le CD audio. Parce que les notes me disent que votre avocate n'a jamais dit que la preuve est close. Donc, si la preuve n'est pas close, je peux vous remettre dans la boîte. Je peux vous refaire témoigner. Parfait. Je vais sur ce CD audio. Je l'appelle le matin même. Je dis, le CD audio est prêt, puis je vais aller chercher. Ah, parfait, M. Paquette, je vais aller chercher. Je vais au palais de justice ce matin-là.
Oui.
Je lui donne un 2-3 semaines. Je la rappelle. Je dis, Mme Giguère, est-ce que vous avez écouté le CD?
Il y a pas de
nouvelles. M. Paquette, j'ai pas eu le temps, je suis débordé. Là, je sais plus si je vais prendre votre dossier, parce que mon assistante est prise d'un volcan en Europe, en tout cas.
Mais tout ça, c'est du temps qui passe, hein. C'est l'exigence. Ouais,
c'est du temps qui passe.
Et finalement, elle a fait
finalement,
quoi?
Ben.
Elle vous a redonné votre dossier.
Elle m'a redonné mon dossier. Bye bye, elle prenait plus le dossier. Bonjour.
Et vous l'avez quand même poursuivi.
Je l'ai poursuivi, j'ai porté plainte. Elle a dit,
au barreau.
Vous avez signé aucun papier, M. Paquette, comme quoi qu'elle prenait le dossier.
Oh my God. Oui.
Non, mais
vous avez donné
prenait.
Vous avez donné un chèque aussi. Ouais. Vous n'avez pas donné un chèque.
Ben,
vous avez
pas donné un chèque, mais moi j'ai donné en argent. Ouais. Fait que bon, ça a tombé en deux chaises.
Okay.
Ensuite de ça, bon, j'ai porté plainte contre la partie adverse, Maria Vizina.
Ouais.
Juste pour énumérer un petit point. À un moment donné, le 24 février 2011. La partie adverse, Maître Vizina. Bon, le juge dit, alors, ce que je note ici, les parties admettent que Maître Maria Vizina a discuté avec Maître Lecomte uniquement en l'absence du demandeur Sylvain Paquette, qui était dans un cubicule. Discussions qui ont eu lieu à la fin de la journée du 12 mars.
Oui.
Tout de suite après, Maître Vizina interrompt le juge, puis elle dit, amorce de discussion, Monsieur juge. Parce qu'il n'y avait pas encore de montant sur la table à ce moment-là, je vous le précise. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de 5 000 à la fin de la journée du 12 mars.
Oui, mais ça, c'est compris. Ça, c'est un. Je comprends, monsieur.
Oui, mais regardez bien oui. juste, parce que quand je vais en venir à ma plainte.
Oui.
Là, Maître Vizina, une heure plus tard, elle vient dire. Moi, ce que je viendrais dire, c'est que le 12 mars au matin, on a effectivement réitéré une offre qu'on avait faite dans les semaines précédentes de 5 000. Donc là, elle dit ici qu'elle a fait une offre le 12 mars. Mais parce que dans sa première version, il n'y en a pas d'offre.
Elle n'a pas dit oui, mais ça, c'est clair.
Il n'y en a pas. J'ai porté plainte au barreau contre elle. Barreau dit... a bien rempli son mandat.
OK, oui.
Puis que, ben, c'est pas mais une question vous, de mandat, mais ouais. elle... Monsieur Paquette vous a suggéré que l'offre qu'elle avait faite, parce qu'elle écrit une lettre au barreau, ouais. que l'offre qu'elle avait faite était à l'amiable.
Et vous trouvez ça, c'est injuste pour ça?
Ben, c'est injuste parce ouais. que c'est pas vrai, c'est pas à l'amiable ouais. dans sa première version. C'est maintenant, pas une offre à l'amiable.
Maintenant, ça, c'est la deuxième avocate.
Ouais.
Maintenant, et la troisième?
La troisième avocate qui était mon avocate. Nancy Lecomte.
Oui, oui.
Regardez, là, j'ai dit.
Elle, vous avez pas, vous avez jamais cessé de la poursuivre.
Non, hein? j'ai jamais cessé.
Alors, si le barreau, ils ont rejeté votre demande, ils n'ont pas accepté, vous avez ouais. fait quoi comme démarche après?
Comme démarche, regardez-moi, la chose que je peux dire aux citoyens,
ouais.
si jamais vous avez une plainte à porter
Exactement,
au barreau,
ouais.
OK? Premièrement, il faut que vous fassiez votre plainte devant le syndic du barreau, qu'éventuellement, que le syndic du barreau va rejeter. Parce que, excusez l'expression, mais parce que vous êtes intrusif.
C'est pas dans tous les cas qu'il va le rejeter.
Mais
tu es en train de nous dire que dans la plupart du temps, regardez, selon votre expérience, ouais. elle va te rejeter.
Regardez, parce que le barreau, c'est comme un syndicat.
Oui.
C'est comme la CSD, la CSN.
Oui.
Ils protègent ses membres.
Oui.
Ces gens-là, là, les avocats, payent des cotisations.
Tout à fait. Oui.
Fait que, ils sont,
il
sont
problème,
comme mal placés de ne oui. pas protéger leurs membres.
Oui.
Fait qu'ils protègent leurs membres. Puis, moi, à ce moment-là, bon, j'ai porté plainte, et dans tous ces événements-là, tout a été rejeté. Là, bon, vous portez une plainte, mettons, devant le syndic du barreau.
Oui.
Le syndic du barreau, s'il rejette rejeter. Votre plainte.
Qu'est-ce
là, vous allez recevoir
faire?
Une
Qu'est-ce
lettre, ouais. vous allez recevoir une lettre, comme quoi que vous portez, vous avez 30 jours, portez votre décision devant le comité de révision du barreau.
Oui. Ce que vous avez fait.
C'est ce que j'ai fait. Là, le comité de révision, il rejette votre plainte.
Et il rejette la même chose.
Il rejette votre plainte.
Même,
ouais. Et à ce moment-là, dans cette lettre-là, c'est écrit que le comité de révision a jugé qu'il n'y a pas matière à emmener ça devant le conseil de discipline.
OK.
Et là, vous croyez que votre recours est fini.
Ouais, mais
c'est mort, vous ne pouvez plus poursuivre.
Mais ce n'est pas ça ce qui s'est passé
mais
dans votre
faux.
Cas.
Là, moi, j'ai parlé, regardez, avec Mme Claudia Aguirre du barreau.
Ouais.
Elle m'a dit, mais c'est pas clair. Pourquoi vous ne faites pas une plainte privée devant le conseil de discipline?
Est-ce que vous avez fait? Ça a marché?
Ah, j'ai dit, je peux faire ça. Elle dit, ben oui. Mais regardez, ça a tombé dans le vide encore.
Ouais.
Le comité de discipline a conclu que cette avocate-là a bien fait son travail.
Ah,
là, mon seul recours que j'ai, là, vous pensez que tout est fini? Ah non, non, là, vous verrez de bord. Et là, vous déposez ça devant le tribunal des professions.
OK, bravo. Et ce que vous avez fait aussi?
Là, que j'ai fait, et là, je vais à une date d'audition, le 20 février 2013.
Mais qui vous dit que ça ne va pas se rejeter? C'est toute la même ligne, là. Est-ce que vous avez un espoir derrière tout ça? Moi, je comprends
votre combat.
Honnêtement,
j'y crois pas bien.
Ah, ouais.
Honnêtement, j'y crois pas bien. Je me dis à quatre parts.
Mais comme c'est une histoire...
Il y a tellement de magouilles qu'on voit partout. Que...
Mais M. Paquette, quand même, c'est une histoire que vous êtes derrière ça depuis combien d'années, là? On parle de...
Là, si on parle depuis mon accident, depuis 2003,
alors,
ce combat-là avec mon avocate depuis 2009.
Alors, quand même, depuis 2009, vous n'avez jamais cessé. Et je
non.
vois les documents qui sont devant moi. Vous avez préparé. Vous avez fait un travail même mieux qu'un avocat, là. Vous êtes, ça veut dire que ça se voit quand même les nuits blanches que vous avez passées.
Ah oui.
Mais
des heures de plaisir.
Ouais, ce qui est malheureux, ça montre exactement comment les gens qui n'ont pas eu justice, malheureusement, comment ils passent leur vie. Alors, normalement, vous devrez passer à autre chose.
Ouais.
Mais des types comme vous restent coincés. Ils veulent que justice soit faite.
Comment
un jour.
Vous voulez, M. Zitouni, que... À quatre parts, là, que...
Moi, je comprends, je vous comprends.
Oh,
ouais, je comprends
c'est lourd.
Ouais, c'est
comment
lourd,
vous voulez que je passe à autre chose?
Ouais.
Quand j'ai jamais accepté cette offre-là de 5 000,
ouais.
j'ai failli me tuer, j'ai été dans le coma, j'ai été des mois et des mois à l'hôpital, physiothérapie et tout, puis que j'accepte que ce propriétaire-là, où est-ce que je suis tombé, il était négligent dans sa négligence.
Tout à fait.
Puis que... Tout le tort me revient, alors que ce propriétaire-là, lors du premier procès, le 12 et 13 mars 2009, a jamais témoigné.
Oui.
Juste pour ouvrir une petite parenthèse, moi, le premier juge qui était dans mon procès, c'était le juge Jacques R. Fournier. J'ai su dernièrement qu'il n'est plus juge,
oui.
qu'il aurait démissionné.
Il était démissionné ou démissionné de son poste?
Il a démissionné.
De son poste.
Puis parce qu'il y a eu de la collision dans un autre procès, dans un autre...
dans son cas, lui.
Oui, ouais. il a démissionné parce qu'il y a eu de la collision avec un autre juge, le juge Richard Wanger.
Et ça, c'est le juge qui vous a balayé la première partie, là.
Qui m'a parti la première fois.
Ouais.
Puis que, bon, là, c'est pas des prétentions que je dis. Bon, là, c'est sous enquête, puis qu'il y aurait eu de la collision avec un autre bureau d'avocat. Puis ce bureau d'avocat-là me représentait contre cette avocate-là. Nancy Lecomte.
Dans le même
dans le même bureau.
Ouais.
Et cet avocat-là qui me représentait, je me gêne pas de le donner, je fais pas un jugement ici. Ouais. Sauf que mon avocat qui me représentait, Maître André Trudel, est rendu maintenant avocat pour la partie adverse.
Ah, voilà, my God, c'est ça.
Fait que c'est assez...
C'est un cercle fermé.
Juste, bon, je sais que là, l'émission achève, mais à un moment donné, c'est que les plaintes que j'ai portées et tout ça, puis à un moment donné, bon, Maître Vizina, elle adresse une lettre au barreau comme quoi que... qu'elle a bien fait sa job, puis que j'ai pas de recours contre elle parce que c'était pas mon avocat.
Ouais.
Mais à un moment donné, elle adresse une lettre, puis dans cette lettre-là, elle écrit « Maître Lecomte s'est approché près de moi et le 12 mars au matin et m'a demandé si j'avais pas une offre à lui soumettre, car nous perdions tous notre temps. »
Ouais, c'est ça.
Oups! Parce que là, ici, là, si on regarde le code de déontologie du barreau, 4.03.03 dit « L'avocat ne doit pas surprendre la bonne foi d'un autre avocat ou se rendre coupable envers lui des abus de confiance et des procédures déloyaux. »
Tout à fait, oui, oui.
Fait que là, il y a une procédure.
Mais il fallait aussi souligner, c'est quelque chose qui était important pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que l'avocate en question, elle vous a même poursuivi au criminel.
Oui, à moi-même, parce que j'ai envoyé des courriels.
Parce que vous avez envoyé des courriels à cet avocate-là pour lui dire, écoutez, oui, ce n'est pas juste, votre travail, vous l'avez fait, vous savez très bien que j'ai jamais accepté l'offre, et suite à ce que vous l'avez écrit,
puis
elle vous poursuit.
Puis que vous contredisez, puis que c'est plein de contradictions.
Oui, mais juste le fait de vous avoir écrit pour lui dire votre opinion, de vous lui dire qu'est-ce que vous pensez,
à moi poursuivi au criminel.
Sans jamais faire aucune... je ne sais pas, vous avez jamais dit un mot qui l'a blessé ou quoi que ce soit, à part dire la vérité telle qu'elle est.
Regardez,
alors pour ça, excuse-moi, elle vous poursuit au criminel et vous étiez arrêté chez vous avec de la police.
8 policiers qui sont venus chez nous, la SQ.
Et vous avez été menotté et conduit au poste de police.
Ils ne m'ont pas menotté. Ils ont dit, on n'a pas moyen de vous menotter, M. Paquette. Ouais. On a confiance que vous ne passerez pas. Mais ben non, comment vous voulez.
Mais vous avez comment été. Votre matériel informatique était saisi.
Ouais.
Jusqu'à présent, il est saisi, j'imagine.
Oui, jusqu'à présent, jusqu'à temps que je ne passerai pas en cours. Puis là, même la couronne.
Et poursuivi.
Mon avocate, qui était Nancy Lecomte, qui travaillait pour un bureau privé, est maintenant rendue avocate pour procureur de la Couronne.
Et voilà, c'est pourquoi.
Et puis que le procureur de la Couronne de Québec, dans ce dossier-là, que j'ai pas fait aucune menace, puis ma sœur en est des témoins jeudi passé parce qu'elle est venue à la cour avec moi, puis l'avocat, il a dit, Marc Lavoie, il a dit, il y a aucune menace.
Oui,
il était courtois dans ses courriels avec elle, il était fin.
Mais vous avez compris bien qu'elle a voulu vous décourager pour vous dire...
Que je lâche mes procédures.
Vous lâchez vos procédures, vous fermez votre gueule. C'est ça ce qu'elle voulait vous dire.
Mais tu sais, mais d'un côté, Maître Lecomte, elle veut pas que je fasse... La couronne, de l'autre côté, réclame 12 mois de prison.
Ils veulent vous mettre 12 ans.
Oui, 12 mois de prison. Là, ils sont rendus à toi.
Parce que vous avez envoyé...
Des courriels sans aucune menace.
Mais monsieur Paquette, vous risquez d'avoir...
Ouais. Dans tout mon combat que je subis, de toute l'injustice, je risque 3 mois de prison.
Ça, c'est le bonheur. Vous me parlez du Québec, le lieu du bonheur.
Ah, la justice, c'est ça, la justice. Puis, mon épouse, pas mon épouse, mais ma soeur est venue avec moi là-bas, puis elle a dit, l'avocat, il a dit non. Il dit, écoute, il n'y a aucune matière à poursuivre au criminel là-dedans, ça n'a même pas de bon sens. Puis même cet avocat-là, il dit, écoute, mec, tu tombes devant le tribunal de profession, là. Ta cause est gagnante. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer devant le tribunal.
Vous êtes ici, M. Paquette, vous êtes ici, vous exprimez et vous expliquez votre cas. Mais je me demande combien de personnes sont dans votre cas.
Il doit en avoir des milliers, des milliers, mais le monde parle pas.
Combien de personnes? Et imaginez-vous, quelqu'un comme vous qui vient demander justice, on va le prendre, on va le mettre derrière les barreaux pour fermer sa gueule. Est-ce que c'est ça? On parle du bonheur.
Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un n'a pas les moyens... Moi, bon, vous savez, je ne travaille plus avec toutes les choses que j'ai eues, les blessures que j'ai eues et tout ça. Ouais. Mais parce que mon épouse, elle gagne des bons salaires, elle gagne 50 000
par année. C'est elle qui fait vous vivre, c'est ça?
Oui, c'est ça. Là, c'est elle
si vous n'avez pas eu votre épouse, vous êtes dans la rue, là?
Oui. Ben là, j'aurais eu le droit à l'aide juridique à ce moment-là.
Ouais.
Puis, mais on dirait, parce que là, je me défends tout seul, que j'ai pas d'avocat, j'ai pas moyen de payer un avocat à 300 piastres à l'heure.
Ouais.
Excusez, mais je suis un trou de cul.
Voilà. Ben écoute, mais est-ce que derrière tout ça, parce qu'on vient, l'émission va s'achever et s'achève, quel est le sentiment? Moi, je pose cette question-là à des victimes qui sont devant moi et moi, ça me bouleverse complètement. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Est-ce que c'est la vulnérabilité? Vous êtes vraiment, je comprends, vous êtes impuissant devant le système qui est devant l'appareil.
Impuissant, puis regardez, puis la nuit, puis j'ai pas l'intention de mourir, là.
Ouais.
La nuit, j'en rêve au suicide. Donc.
My God. Écoutez,
tellement
là,
que ça en est rendu loin.
Voilà, donc nous sommes dans le pays le plus,
protégé.
L'endroit le plus plus protégé, le plus heureux sur la terre. Alors, on vient au terme.
Je sais, comme un policier m'a déjà dit, il y a une loi. Oui. Mais il n'y a carrément pas de justice.
Voilà, c'est très bien dit. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, sur ça, on arrive au terme de cette émission. J'aimerais bien remercier M. Paquette d'avoir accepté notre invitation, d'avoir nous avoir parlé, éclairé un petit peu sur le système et sur le barreau surtout. J'aimerais bien remercier Mme Daher qui a participé à cette émission, de nous avoir parlé des logements sociaux. Merci aussi à Radio Centre-Ville de 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre justement existe. Et merci à notre technicien de son Louis-Joseph, il est toujours là, c'est un bénévole pour la radio, un grand merci.
Juste un petit point, rapidement. Moi là, le 21 décembre je m'en vais à la cour contre la procédure criminelle. Je risque peut-être de me faire enfermer. Enfin, je n'aurai pas la chance d'aller à procès le 20 février.
On vous a fait ça. Alors voilà, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure. Sur ça, je vous dis passez une bonne fin de semaine. Au revoir.
De voir qu'est-ce qu'on y trouve. Et ce que j'ai vu, ça m'a déçu. Les gens que j'aimais sont rendus fous à cause de cette soif étanche, de cette foutue poudre blanche. Et quand tu plonges à plein nez, tu penses que tu planes, mais c'est faux, c'est le saut de l'ange vers le fond du gouffre. J'espère au moins que tu bouffes, car pour l'instant t'as l'arme, un brin d'herbe qui s'étouffe. Et je souffre de voir ça, mon frère, de voir que tu détruis de la sorte, ça m'attriste. Ce que je voudrais, c'est que tu t'en sortes, mais à quel prix? Quand je pense à tout ce que tu m'as pris, avec l'emprise que t'as sur moi, et puis des crises et des cris. Mais ce qui me tue le plus, c'est vraiment que j'y peux rien. J'aurais beau tout donner, mais tu ne feras qu'aller plus loin. Jusqu'à ce que je baisse les bras et sache que je suis rendu là. Tu peux m'en vouloir si tu veux, mais je ne céderai pas. Non, oh non, je ne céderai pas. Car on a tous besoin de fuir, mais on a tous besoin de lui. T'es parti pour que ton âme s'éparpille ainsi que tu te perdes.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Multilingue, international, le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal vous est offert en français, bilingue français-anglais ou trilingue français-anglais-espagnol. Le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, une expérience universitaire à votre portée. Pour vivre une expérience exceptionnelle dans une université renommée et internationale. Information hec.ca. HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Jusqu'où irez-vous?
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, tagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass, toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons la